France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Barthélémy Gaillard, Sacha Mattei, Mélanie Chalandon, Gwendoline Troiano et Christelle Anger, réalisé par Sam Bakias. Et à la technique ce matin, c'est Ludovic Auger. C'est le troisième volet de notre série consacrée aux pressions politiques subies par les fonctionnaires partout dans le monde. Aujourd'hui, en Russie, la fabrique de la loyauté.
Un chef est quelqu'un qui montre l'exemple, qui emmène les gens avec lui, qui exige de lui-même davantage que des autres. Le rôle du parti au pouvoir ne consiste pas à diriger, mais à servir, servir le peuple russe.
А в том, чтобы служить, служить народу России.
Mes élèves m'ont demandé si je soutenais l'Ukraine. J'ai répondu que j'étais contre la guerre. On m'a alors demandé de démissionner de l'école. J'ai refusé et j'ai donc été renvoyée pour comportement immoral.
Nous avons déjà mis en place un programme spécial de formation des cadres intitulé « L'ère des héros ». Parmi les participants à la première promotion, plus de 60 sont chevaliers de l'Ordre du Courage et 21 portent le titre de héros de Russie.
L'ère des héros, c'est ce programme que Vladimir Poutine présentait le 10 décembre dernier aux parlementaires. Des soldats de retour d'Ukraine, pour la plupart blessés, qu'il s'agit d'intégrer dans l'administration russe. Ces gens courageux, a-t-il précisé, devraient occuper des postes de premier plan, que ce soit dans le système d'éducation et de formation des jeunes ou dans les sociétés d'État. Car en Russie, comme dans d'autres bureaucraties du reste, la loyauté est une vertu cardinale. Et l'administration, une sorte de système immunitaire de la patrie, pour reprendre les mots de l'écrivain Yegor Gran dans Les services compétents, roman où les services, en l'occurrence de renseignement, sont les gardiens invisibles d'un corps sain, comme le sont les enzymes digestifs. Leur mission est aussi de lutter contre les humeurs défaitistes, où qu'ils soient nommés, sur l'immense territoire russe. Une verticale du pouvoir, comme on dit, entretenue par un système de récompenses et de sanctions, alimentée aussi par des écoles de formation des cadres, dont le directeur récemment a été limogé. École que vous avez particulièrement étudiée, Victor Violier. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur en politique comparée et en sociologie militaire et des institutions à l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Vous êtes aussi chercheur associé à l'Institut des Sciences Sociales du Politique. Nous attendons ici aussi en studio Anna-Colin Lebedev, qui ne va pas tarder pour cette discussion, qui est maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre. D'abord, Victor Violier, qu'est-ce qu'on sait sur ce programme dont on a entendu Vladimir Poutine dire quelques mots, le temps des héros, qui propose une reconversion professionnelle à des combattants revenus d'Ukraine? Qu'est-ce qu'on en sait? Qui en bénéficie, qui en a déjà bénéficié?
Alors, ce programme, il est assez récent, donc c'est vrai qu'on en sait encore assez peu de choses. Il n'y a eu qu'une première cohorte de cadres concernés, mais il a été lancé donc en mars 2024, après avoir été annoncé par Vladimir Poutine dans son discours aux assemblées le 29 février. Et on peut en dire au moins trois choses, il me semble, à ce stade. D'abord, il est calqué sur un dispositif existant qui a été créé à la fin des années 2000, qui est celui des réserves de cadres, donc qui d'ailleurs rappelle à certains égards la nomenclatura soviétique, puisqu'il s'agit de listes de cadres de différents niveaux auxquels sont proposées des sessions de formation spécifiques pour les préparer et les promouvoir à des fonctions à responsabilité, leur faire gravir les échelons de l'administration.
Il y a 4 modules de 30 jours chacun, donc il y a une véritable formation.
Tout à fait. Donc là vraiment, ça ressemble au principe des réserves de cadres. Ce qui change, c'est la base de recrutement, puisque ce sont des anciens combattants de la guerre en Ukraine. Dans le même ordre d'idée, ce programme est hébergé à la Haute École de Gestion Publique de l'administration présidentielle, dont on sera peut-être amené à reparler, au même titre que d'autres programmes qui ont déjà été éprouvés, de programmes de renouvellement élitaire, comme l'École des gouverneurs, par exemple. Et puis, enfin, troisième élément, et qui a plutôt un facteur de nouveauté, c'est que le programme met l'accent sur la loyauté au pouvoir et érige le patriotisme en valeur cardinale, comme critère de recrutement prioritaire de cette nouvelle élite. Et là, on est dans la droite ligne de la radicalisation du régime depuis le début de la guerre, et de aussi de la préparation de l'après.
Bonjour Nakolan Lebedev.
Bonjour.
Bienvenue à vous, mettez-vous à l'aise, vous venez d'arriver. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste de l'Ukraine et de la Russie post-soviétique. Je vous pose la même question, ce programme du temps des héros qui a été annoncé il y a presque un an, Vladimir Poutine. Vous, qu'est-ce que vous en avez pu peut-être apprendre un petit peu en regardant ici et là, si d'ores et déjà d'anciens combattants, je précise qu'il y avait aussi une autre condition pour ce programme, c'est que ces anciens combattants devaient avoir déjà suivi des études et avoir même une expérience dans la gestion de personnes. Ce sont les termes employés. Qu'est-ce qu'on en sait? Combien de personnes déjà en ont bénéficié?
Alors, je suis complètement dans la continuité de ce qu'a dit Victor Violier, c'est-à-dire qu'on est dans un programme qui n'est pas une rupture. On est dans un programme qui est une continuité non seulement, je dirais, par le mode de formation, le profil, le lieu où ça se déroule, mais également par le profil. Et comme vous l'avez souligné, des personnes formées. C'est-à-dire que, pour l'essentiel, on constate que sur la petite promotion de quelques dizaines de personnes qui ont été sélectionnées dans un premier tour déjà, une première promotion pour suivre cette formation, en fait, un grand nombre étaient déjà des fonctionnaires en activité ou des militaires d'ailleurs de carrière qui, je dirais, quelque part, ont bénéficié davantage d'un tremplin en fait, dans leur carrière, liée à cette priorité du système militaire. On a, par exemple, un gouverneur adjoint qui avait rejoint ce programme de formation, qui va se faire proposer un autre poste. On a des fonctionnaires de différents niveaux. Alors, ça se passe par un dispositif très particulier. C'est pas le combattant, en fait, qui vient de rentrer du front, où il a passé un an, deux ans, où il s'est fait connaître par des faits d'armes, qui rejoint ce programme. C'est pour l'essentiel des personnes qui se sont enrôlées, en fait, pour une durée très courte, quelques mois, au sein d'un bataillon très spécifique qui relève du système BARS. Alors, le système BARS, en fait, c'est des bataillons de réservistes, donc qui officiellement ne sont pas envoyés sur le front, mais peuvent être envoyés sur le front dans certaines conditions, et qui ont une durée de service courte. Donc, en réalité, ce n'est pas le combattant qui se voit offrir une chance, c'est plutôt le fonctionnaire qui, par un petit passage par les forces armées, en fait, peut donner un nouveau souffle à sa carrière.
Avec quelques exceptions quand même, et pour la petite anecdote, le Figaro avait interrogé un de ses vétérans passé par le programme Le Temps des Héros. Alors lui, il s'était battu quelques semaines en Ukraine, s'est blessé à un œil, il en est sorti aveugle de l'œil droit. Il s'apprêtait à enseigner dans une école secondaire de Novossibirsk, la grande métropole de Sibérie, après donc cette formation, ce programme de formation de 4 modules de 30 jours. Et deux mois après l'avoir interrogé avec l'autorisation de l'administration locale, le journaliste du Figaro le rappelle pour vérifier quelques informations et au bout du fil, il entend l'écho du canon puisque l'homme était finalement retourné se battre dans l'école retourné se battre en Ukraine et donc avait laissé tomber pour l'instant ses velléités d'enseignement. Alors lui, il n'avait jamais enseigné jusque-là, mais donc c'est une exception par rapport à ce que vous nous dites, Anna-Colin Lebedev. Est-ce que c'est une façon aussi, ce programme, de renouveler les postes, Victor Violier? Est-ce qu'il y a un manque de candidats dans la fonction publique ou c'est vraiment une manière de mettre en avant ceux qui se sont battus sur le front?
Je dirais que c'est, oui, une manière effectivement de les mettre en avant, d'offrir des perspectives aussi. Mais je pense que c'est surtout une manière de renouveler aussi les ressorts de la légitimité de l'administration, de l'appareil bureaucratique, et d'injecter une légitimité issue de cette guerre en cours. Et dont il faudra bien préparer l'issue à un moment donné pour le pouvoir.
Anna-Colin Lebedev, une fois ceci posé, c'est peut-être non pas un épiphénomène, mais ça ne concerne pour l'instant que quelques dizaines de personnes, ce programme-là. Donc parlons plutôt de la structure de l'administration russe. Comment se le représenter, le système administratif russe? D'abord, combien d'agents y travaillent, tout simplement?
Alors en fait, on a là des chiffres qui sont... qui peuvent être lus de différentes manières. Si on prend les personnes qui ont un contrat de droit public, donc qui sont officiellement considérées comme des fonctionnaires, en 2021, les chiffres officiels étaient d'environ 3 300 000 fonctionnaires, plus un certain nombre de militaires, donc enfin un nombre considérable de militaires, voilà, 1 400 000. Donc on était en tout aux alentours un peu moins de 5 millions de personnes pour un pays de 140 millions d'habitants. Ça paraît pas énorme, mais en fait on suit là aussi des déclarations officielles, par exemple celles qui ont pu être faites par la ministre adjointe du ministère de la Défense, eh bien on a un tiers de la population active russe qui serait impliquée, selon ces données officielles, dans le secteur soit public, soit étatique, c'est-à-dire pas forcément avec un contrat de fonctionnaire, mais néanmoins très, très lié à l'État et très dépendant de l'État. Pour rentrer dans la fonction publique russe, il n'y a pas de concours à l'équivalent de du système français. On a un certain nombre d'exigences, un certain nombre de tests peut-être à passer, mais en l'occurrence, il s'agit plutôt d'un recrutement classique. Donc on rentre et on peut sortir également. Et
donc des entretiens, vous voulez dire, quand vous
voilà, avec parfois il y a peut-être un test d'aptitude à passer dans une matière ou une autre. Ça dépend de du caractère technique au nom du poste, mais je dirais voilà, ce n'est pas un engagement pour la vie qui serait lié à des contraintes fortes.
Comment a évolué ce nombre de fonctionnaires? Alors d'après le ministère des Finances, c'est un tiers de la population active russe qui travaille dans un secteur directement financé par l'État, en comptant, comme vous l'avez fait Anna Colin-Lebedev, les entreprises étatiques ou les services municipaux. Est-ce que ce nombre a connu de grandes évolutions depuis, disons, la chute de l'Union soviétique, Victor Violier? Comment expliquer ce côté pléthorique du nombre de fonctionnaires?
Ce qui joue déjà, c'est que le pouvoir en place, Vladimir Poutine, s'est fait élire et est arrivé au pouvoir avec la promesse de rétablir l'autorité de l'État. De rétablir la capacité, alors ça c'est sans doute davantage à prouver, aussi de l'État à assurer l'exécution de ses décisions, les services publics, etc. C'est ce que Vladimir Poutine appelait la verticale du pouvoir. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, puisque sous Boris Yeltsin, sous son prédécesseur, l'État fédéral avait délégué une grande partie de ses prérogatives aux régions en fonction de leur poids politique, donc de manière assez inégale, de manière même dans un certain nombre de cas inconstitutionnels, et jusqu'à menacer en fait l'unité de la fédération.
Anna Colin-Lebedev.
En complément de ce qui vient d'être dit, les années 90 ont été des années de privatisation. On a ainsi dégraissé la fonction publique et l'État s'est désengagé. Mais les années 2000 sont des années où non seulement les services publics deviennent plus nombreux parce que l'État investit là-dedans pour effectivement, comme le disait Victor Violier, installer un contrôle plus serré à Moscou, mais également dans les régions. Mais aussi, on a une logique de réappropriation en fait d'un certain nombre de secteurs stratégiques de l'économie et d'entreprises. Donc ça ne fait pas des fonctionnaires, mais ça fait effectivement des travailleurs qui, dans leur financement, mais aussi dans le contrôle en fait hiérarchique dont ils font l'objet à tous les échelons, sont extrêmement dépendants de l'État et des autorités étatiques.
Et à la tête des régions, alors, comment ça se passe? Parce que ce sont des postes qui, a priori, sont politiques, avec des gouverneurs qui sont élus.
Là aussi, nous avons eu une évolution absolument frappante. Quand on parle de la Russie, on parle de la Fédération de Russie. Donc, qui dit fédération s'attend à un fonctionnement fédéral avec un nombre important de pouvoir au niveau des régions. En l'occurrence, tout au long de ces années au pouvoir, Vladimir Poutine s'est attaché en fait à détricoter ce système fédéral, et notamment de remplacer des personnages qui étaient des personnages politiques par des administratifs. Alors, les gouverneurs étaient effectivement, selon la constitution russe de 1993, élus au suffrage universel direct dans les régions. Certains portaient d'ailleurs le nom de président de région. On est très très loin de l'administrateur là-dedans. L'élection au suffrage universel direct a été supprimée en 2004. Donc, on a eu remplacé par un système de nomination, mais ensuite rétabli en 2013, sous la présidence de Dmitri Medvedev. Donc, on peut se dire, tiens, démocratisation. Et effectivement, ça répondait à une demande de la population, qui était une demande de démocratisation très clairement exprimée lors des protestations de 2011-2012. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, le système qui est mis en place a complètement vidé de sa substance cette élection directe ou indirecte qui existe effectivement dans les régions. Soit c'est élu par la population, soit c'est élu par l'organe législatif local. Mais en fait, voilà comment ça se passe. Nous avons un gouverneur qui sort de ses fonctions, qui démissionne, ou alors qui est démissionné par manque de confiance par le président de la Fédération de Russie.
On trouve toujours des affaires de corruption quelque part.
On trouve toujours des choses, mais dans la plupart des cas, il démissionne tout simplement en fin de mandat. Et puis le président, Vladimir Poutine, nomme un gouverneur par intérim pour quelques mois, envoyant un signal que c'est celui-là qui devra être élu. Donc en fait, l'élection est derrière uniquement une confirmation d'une nomination qui a été faite par le président.
Et celui qui est nommé est donc un fonctionnaire, Victor Violier? en général. Celui qui est nommé à la place du gouvernement, du gouverneur démissionnaire, c'est un administratif, entre guillemets.
Alors, ça dépend des profils, mais pour compléter ce que disait Anna Colin-Lebedev, justement, depuis, en particulier depuis les années 2010, on note effectivement quelque chose qui accentue cette dépolitisation, c'est aussi les profils qui sont privilégiés, qui sont des profils dits technocratiques, qui sont pour un certain nombre des profils relativement jeunes, nés des années 70 voire 80, donc qui ont été beaucoup moins marqués par l'expérience soviétique génération de Vladimir Poutine, qui sont souvent dépourvus de capital politique au moment de leur arrivée en fonction, et qui sont réputés loyaux au pouvoir, donc à qui ils doivent leur mise en place. Et le choix du pouvoir, en plus, se porte souvent sur des individus étrangers à la région.
Oui,
c'est important, dont ils leur confient la gestion. Et donc, ce parachutage, en quelque sorte, renforce leur image de technicien, de gestionnaire. Et en plus, pour terminer, ces profils, souvent, ils ont fait un passage par l'Académie présidentielle, par les programmes de l'Académie présidentielle et par les réserves de cadres. Donc, ils ont été repérés et promus pour ensuite être nommés à ces postes.
C'est exactement ce qui s'est passé dans le kraï de Khabarovsk, cette ville de l'extrême-orient russe près de la frontière chinoise, où le gouverneur Sergueï Fourgal a été démissionné. On lui a trouvé une affaire aussi et on l'a remplacé par quelqu'un qui venait pas du tout de cette région.
Après son élection, Sergueï Fourgal a commencé à se comporter comme un homme politique français ou américain. C'est-à-dire qu'il a parlé avec les gens, il les a écoutés et il a au moins essayé de résoudre leurs problèmes. Sergueï Fourgal ne devait pas remporter le scrutin. Il aurait dû céder sa place au candidat de Russie unie. Il ne l'a pas fait et il est donc devenu l'adversaire du pouvoir. Formellement, l'objectif des manifestants est de soutenir le gouverneur. Mais Sergueï Fourgal est devenu une sorte d'icône, de symbole. Et derrière lui se joue une lutte pour la liberté en général, pour dénoncer les conditions de vie qui se dégradent. Et aussi, sans doute, pour protester contre celui qui est devenu responsable de cette situation. Car après tout, nous avons le même président depuis 20 ans.
Extrait d'un grand reportage de RFI par Daniel Valo en 2020, Anna Colin-Lebedev. D'ailleurs, est-ce qu'on a des nouvelles de cette histoire-là? Et vous vouliez ajouter quelque chose à ce que disait Victor Violier tout à l'heure.
Sergueï, l'affaire Fourgal est vraiment l'exception qui confirme la règle. C'est précisément parce que là, on avait affaire à un acteur politique que la répression a été aussi forte. Et bien évidemment, il est toujours en prison et son remplaçant est en poste. Alors, cette caractéristique qui est celle de l'affaire Fourgal, c'est-à-dire un local qui a essayé d'avoir du poids politique et qui a été remplacé par quelqu'un d'extérieur à la région, eh bien je dirais ça a incité le pouvoir russe à nommer au poste de gouverneur précisément des gens qui ne sont pas du tout originaires de la région qu'ils dirigent et donc qu'ils ne la connaissent pas du tout. Officiellement, c'est pour lutter contre la corruption, c'est-à-dire quand on n'est pas de la région, on n'a pas de lien et donc on va moins facilement se laisser corrompre, mais dans les faits, c'est aussi pour les déposséder d'une partie de contact avec le terrain local. Alors ce sont des personnalités élues, donc elles ne sont pas officiellement fonctionnaires, mais néanmoins on constate par exemple que depuis quelques années, le président de la Fédération de Russie va fixer des objectifs qui vont servir de critères d'évaluation à l'efficacité du travail des gouverneurs très objectivement. Et donc là, on voit bien à quel point le lien ici est un lien administratif. Donc par exemple, la dernière liste vient d'être publiée de critères fixés aux gouverneurs. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a par exemple là-dedans le taux de natalité dans la région, la satisfaction des vétérans de la guerre en Ukraine sur leur prise en charge. On avait encore il y a quelques années le taux de fréquentation des établissements culturels, etc., etc. Donc en fait, les gouverneurs doivent en fait cocher les cases et remplir les objectifs qui leur sont fixés par le pouvoir central.
Est-ce que ce sont eux qu'on appelle, Anna Colin-Lebedev, les technocrates gris? Qu'est-ce que c'est que cette expression qui circule en Russie au sujet de qui?
Alors, le technocrate gris ne se limite pas à la figure du gouverneur. Hein. C'est Victor Violier a évoqué ces figures plutôt technocratiques que politiques qui très clairement affichent leur manque d'ambition politique. Et pour faire carrière en Russie, il faut afficher son manque de désir de briguer des mandats électifs. Mais je dirais, c'est surtout la figure qui a été favorisée dans les carrières pour l'évaluation l'élévation dans la hiérarchie, dans toutes les institutions en fait du pouvoir russe. On favorise des gens plutôt jeunes, on favorise des gens qui sont plutôt loyaux, qui appartiennent souvent à des clans, mais surtout qu'on ne verra pas dans les médias, qu'on ne reconnaîtra pas et qui prendront pas la parole de manière autonome.
Victor Violi.
Oui, pour donner un exemple simplement de ces profils, par exemple, il y a le cas de Vladimir Solovtsov qui a été nommé à la tête de la République de Sakha en 2018, faisant fonction, donc comme disait Anna-Colin Lebedev, c'est-à-dire par intérim. Et puis du Kraï du Kamtchatka depuis 2020, qui a 42 ans, donc qui est relativement jeune, qui est un ancien enseignant de gestion publique de la faculté d'administration publique de l'Université d'État de Moscou, et qui est auteur d'une thèse sur le gouvernement numérique. Donc là, on a un exemple d'un technicien et d'un spécialiste de la gestion publique.
Et il se fait petit, alors dans les médias, on le voit pas, il n'a pas intérêt à intervenir ou que ce soit.
C'est ça, il ne défraie pas la chronique.
Mais alors, quels sont les avantages statutaires et sociaux des fonctionnaires en Russie? D'abord, est-ce qu'ils sont bien payés, Anna-Colin Lebedev?
Alors, on a des niveaux de rémunération, bien évidemment, très variables, qui sont alignés, je dirais, sur l'inégalité des revenus qu'on peut observer en Russie de manière générale. Par exemple, les fonctionnaires ne sont pas payés de la même manière selon la région où on se trouve. Dans la mesure où une partie de leur rémunération est une partie régionale en fonction de la richesse ou de la pauvreté des régions. Alors, la règle qui a été fixée, notamment pour les fonctionnaires, je dirais, de niveau petit et intermédiaire, de base et intermédiaire, c'est que leurs salaires sont extrêmement bas. Le salaire de base qui est fixé est vraiment insuffisant généralement pour vivre, et donc ils sont très dépendants de la prime qui, elle, dont le montant est beaucoup plus élevé en fait que le montant du salaire, et c'est cette prime accordée de manière discrétionnaire par le supérieur hiérarchique qui est le moyen de pression le plus efficace sur les fonctionnaires à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous priver de votre salaire, mais en revanche, si par exemple vous êtes juge et que vous avez mal jugé, eh bien vous allez être privé d'une partie de votre prime.
D'accord, donc la prime, il y a un phénomène de récompense-sanction, quoi. C'est toujours comme ça que ça avance dans tous les domaines, dans toutes les strates de la fonction publique, Victor Violier.
Oui, tout à fait. Cet exemple de la rémunération à la performance est intéressant aussi parce que il montre comment la pratique inspirée notamment du New Public Management, de la nouvelle gestion publique, a été importée et s'accommode parfaitement des pratiques autoritaires du pouvoir.
Importé des États-Unis plutôt,
oui, notamment le New Public Management, ouais. En gros, né dans les années 80, et il est d'inspiration notamment des États-Unis, de Ronald Reagan et du Royaume-Uni, de Margaret Thatcher. Mais on voit donc comment ce corpus vient à alimenter cette pratique autoritaire du pouvoir, cette fameuse verticale administrative, et puis ensuite elle pose la question, bien sûr, de toutes les rémunérations informelles, de ce qu'on peut tirer de ces positions. En fait, puisque si les rémunérations sont faibles, comme l'a dit très justement Anna-Colin Lebedev, la question qui se pose, c'est ce qu'on peut retirer en revanche de ces positions, qui sont des positions de pouvoir, qui offrent un certain nombre de rentes.
Et est-ce que ça offre des passe-droits, par exemple? Enfin, quel genre d'avantages, presque en nature, est-ce qu'on peut attendre Anna-Colin Lebedev de ces postes-là?
Alors, en fait, là aussi, ça dépend du niveau, mais je dirais, à partir du moment où le fonctionnaire, ce qui n'est pas le cas, par exemple, du médecin, ou ce qui n'est pas le cas de l'enseignant, se retrouve dans une position de délivrer une autorisation, et Dieu sait que les administrations délivrent beaucoup d'autorisations pour toutes sortes d'activités, eh bien, il a accès à une ressource corruptive, bien évidemment. Et l'un des ressorts de la petite corruption de base, c'est ça, pouvoir distribuer des autorisations contre des avantages monétaires. Lorsqu'on est à certains postes de pouvoir, je pense par exemple aux gouverneurs ou aux personnes qui sont à des postes de responsabilité dans les municipalités, on a aussi une relation particulière qui s'établit avec les entreprises. Où non seulement, en fait, on peut demander des pots de vin, mais demander des pots de vin commence à être un petit peu dangereux en Russie aujourd'hui, mais on peut par exemple avoir une relation privilégiée qui permette aux fonctionnaires d'accorder l'accès à tel ou tel marché public, par exemple à une entreprise de sa région spécifiquement. Et ça, c'est une grosse source d'enrichissement à la fois pour les entreprises. Aujourd'hui, on sait que les entreprises russes, l'une de leurs principales sources de revenus, c'est les contrats publics. Et avec la guerre, ces contrats publics ont augmenté dans certains domaines. Mais pour le fonctionnaire, c'est aussi la distribution est un moyen de obtenir à la fois une place de pouvoir et d'avoir aussi un certain pourcentage du contrat qu'il aurait versé au noir.
Et un bon carnet d'adresses aussi quand on est aussi présent dans les attributions de contrats publics. Est-ce que, Victor Violi, à terme, on peut aussi avoir envie d'intégrer des entreprises privées ou publiques d'ailleurs, mais en tout cas, passer du public au privé, c'est quelque chose qui se fait beaucoup en Russie?
Oui, c'est quelque chose qui est possible. Et c'est dans les avantages que procurent ces positions de pouvoir au sein de l'administration. Et évidemment, il y a la dimension du carnet d'adresse, des relations. Sauf d'autant plus que la place de l'informel est importante et déterminante dans ce système. Où la corruption dont parlait Anna Colin-Lebedev renforce la verticale du pouvoir, parce que la corruption est un avantage en fait procuré par la hiérarchie et renforce aussi un esprit de corps d'un genre particulier, non pas organisé autour du service de l'intérêt général, mais d'intérêt catégoriel bien spécifique.
Alors il y a aussi le chemin inverse, ceux qui travaillent dans le privé et qui obtiennent ensuite une haute fonction dans l'administration, comme Boris Kovalchuk qui était à la tête d'une société de l'énergie et qui a été nommé récemment à la tête de la Cour des comptes. Alors vous parlez l'un et l'autre de cette idée de loyauté, la loyauté que les fonctionnaires doivent entretenir auprès de l'État et qu'ils doivent peut-être parfois prouver aussi. Loyauté, c'était aussi le maître mot de notre émission de lundi sur les nominations par Donald Trump, cette fois à la tête d'institutions ou d'agences de l'État. Qu'est-ce que le système bureaucratique russe a de particulier, Anna Colin-Lebedev, si on remonte, est-ce qu'il est pertinent, selon vous, de remonter à l'ancienne Russie où la lignée, les services rendus à l'État comptaient pour occuper un certain rang? Est-ce que ça a du sens ou pour vous, il faut passer à autre chose?
Je pense qu'on aurait plutôt intérêt à remonter au système soviétique, qui a marqué quand même le pays pendant 70 ans, où en fait l'ensemble de la population active était salariée par l'État, donc pas fonctionnaire, mais en tout cas extrêmement dépendante de l'État, et qui avait entretenu cette espèce de flou sur ce que ça voulait dire, en fait... intérêt général ou intérêt particulier, dans la mesure où tout le monde était en train de travailler pour l'intérêt général, mais aussi propriété privée et propriété publique. Par exemple, la pratique de vol dans son entreprise, qui a été extrêmement courante à l'époque soviétique et qui se maintient encore dans une certaine mesure aujourd'hui, eh bien, était justifiée par les travailleurs en disant, je suis pas en train de voler quelqu'un. Je suis en train de voler. On nous dit que tout est à nous dans le pays. Donc, en fait, je suis juste en train de me servir pour améliorer mes conditions de vie. Donc, cette idée, ce mélange entre l'idée de ce qui vous a appartient et ce qui appartient à l'État, c'est ce flou entretenu a peut-être influencé effectivement la constitution du système que l'on voit aujourd'hui.
Est-ce que ça existe encore, le révisor, qui est le titre d'ailleurs d'une comédie en 5 actes de Gogol, ce fonctionnaire chargé de s'assurer qu'il n'y a pas de malversation dans la fonction publique, ça existe encore, Anna Colin-Lebedev?
Des contrôleurs, la fonction publique, ouais. En a énormément, et d'autant plus que le New Public Management introduit effectivement ce type de fonction, sauf que on sait très bien en Russie que l'essentiel pour avoir des bons résultats au moment du contrôle, ce n'est pas tant de tout faire bien, mais d'avoir des bonnes relations avec le contrôleur. Et donc, les bonnes relations avec le contrôleur s'obtiennent par différentes manières.
Différentes manières, autour d'une table, par exemple, notamment
Autour d'une table ou autour de quelques avantages au cadeau.
Donc, avec un système à la fois d'avantages, de récompenses, de promotions, mais aussi, disiez-vous, Victor Violier, de sanctions. Ça peut aller jusqu'à la purge, mais avant cela, il y a l'intimidation.
Dans le pire des cas, nous devons prendre une décision sur ce sujet aujourd'hui.
Qu'est-ce que cela signifie, dans le pire des cas? Suggérez-vous d'entamer des négociations?
Non.
Ou de reconnaître la souveraineté? Parlez franchement.
Je soutiendrai la suggestion de reconnaissance. Je soutiens.
Vous pouvez parler franchement, Sergueï.
Je soutiens la proposition.
Dites-le comme ça, oui ou non?
Je soutiens la proposition relative à l'entrée de la République populaire de Donetsk et de Luhansk dans la Fédération de Russie.
Ce n'est pas de cela dont nous parlons. Nous parlons de la reconnaissance ou non de leur indépendance. Oui ou non?
Oui, je soutiens la proposition de reconnaître leur indépendance.
Merci. Vous pouvez vous asseoir.
L'échange très tendu entre Vladimir Poutine et son chef des services de renseignement russe, Sergueï Narychkine, au tout début de la guerre en Ukraine. Alors, il n'a pas été limogé, il a juste eu une belle frayeur, Anna Colin-Lebedev, mais ce genre d'échange, déjà, est-ce qu'il, à l'époque, vous avez paru assez nouveau, cette façon d'inquiéter quelqu'un en public comme ça, et surtout, depuis, qu'est-ce qui s'est passé, les grandes purges dans l'armée et les services de renseignement?
C'est une pratique qui sert à Vladimir Poutine à montrer en fait que voilà qu'il ne supporte pas la déloyauté au sein de ses services et que c'est lui qui dirige, voilà, qu'il n'y a qu'un chef en fait dans la salle. Là, ce qui était étonnant dans cet épisode, c'est qu'il s'agissait de loyaux parmi les loyaux, hein, et donc en fait la déloyauté était encore plus visible. Les systèmes de purge effectivement sont aussi, ils ne sont absolument pas nouveaux. C'est-à-dire que notamment, vous avez parlé de la corruption, la lutte anticorruption est un outil de gestion en fait de la des différents cercles du pouvoir en Russie. C'est-à-dire qu'on va ouvrir, tout le monde a un dossier quelque part sur lui, tout le monde a baigné dans quelque chose, ou en tout cas on peut monter une affaire contre chacun, et donc c'est un moyen d'écarter une personne ou d'écarter même un clan, comme c'est le cas par exemple aujourd'hui du clan du ministre de la Défense, de l'ancien ministre de la Défense Sergueï Shoigu, où les purges se multiplient, qui se comptent maintenant par dizaines de personnes auprès de ses proches. Donc oui, bien évidemment, on a surtout en fait une dynamique extrêmement verticale dans laquelle on sent que le pouvoir de négociation des uns et des autres, les contre-pouvoirs à l'intérieur même de ces cercles du Kremlin ne sont pas inexistants, mais ne sont pas très puissants.
Sergueï Shoigu, qui a été remplacé d'ailleurs comme ministre de la Défense par, non pas un fonctionnaire, mais un technocrate, en tout cas quelqu'un qui a pris ses fonctions, mais avec aussi le risque qu'on peut imaginer à Anna-Colin Lebedev ou pas. C'est-à-dire que si on envisage la guerre de façon rationnelle et sans affect, ça n'est qu'une mauvaise idée. Donc Poutine écartant les politiques pour mettre des technocrates et des fonctionnaires à la place, est-ce que ça peut donner quelque chose de finalement d'étrange auquel on ne s'attend pas tout de suite, mais de plus compliqué que ce qu'il ne pense?
Je dirais, on peut l'inscrire même dans un mouvement beaucoup plus général où depuis quelques années le président russe en fait privilégie les objectifs politiques et aussi ses propres objectifs politiques sur des considérations de rationalité et notamment économique. Il y a plein de mesures qui sont prises comme ça, comme des purges, mais aussi comme des délégations de responsabilité. En fait, on fait peser le coût de la décision, le poids de la décision, notamment sur l'administration, aux dépens du développement des régions, aux dépens du financement d'un certain nombre de secteurs. Parce que, en fait, le Kremlin a besoin d'afficher quelque chose. Et il y a un épisode, par exemple, qui a été très marquant en amont de la guerre, c'est la gestion de la pandémie du Covid en Russie. Où là, en fait, le Kremlin a été très bien vu tout au long de la pandémie du Covid. Pourquoi ? Parce que toute la responsabilité avait été déléguée, sans ressources supplémentaires d'ailleurs et sans pouvoir supplémentaire, aux gouverneurs des régions. C'est-à-dire que le Kremlin a dit, c'est à eux de gérer, et si ça se passe mal, c'est eux qui sont responsables. Mmh. Donc, en fait, c'est un motif c'est une modalité aussi de gestion du pouvoir et de la décision politique. On fait porter la responsabilité à d'autres et notamment aux administratifs. C'est eux que l'on sanctionne. On leur donne pas forcément des ressources supplémentaires, mais le Kremlin et notamment Vladimir Poutine lui-même s'en sortent toujours blancs et innocents.
Alors comment sont-ils formés, ces fonctionnaires, ces administratifs à qui on donne de plus en plus de pouvoir tout en les surveillant de près, et au moindre faux pas, ils savent qu'ils peuvent sauter. Alors je voulais, Victor Viollier, profiter de votre présence puisque vous avez travaillé en particulier sur l'Académie russe de l'économie nationale et de l'administration publique. On va prendre un peu de temps pour parler de la formation des fonctionnaires. Dans quel objectif cette académie, cette école a-t-elle été créée en 2010? Est-ce qu'à l'époque c'était une école de plus ou c'était la concentration d'écoles qui existaient déjà?
Alors, un peu des deux en quelque sorte, puisqu'elle intervient dans un environnement où préexiste un certain nombre de filières de formation. En revanche, d'abord, c'est une réforme qui intervient à un moment spécifique, donc sous Dmitri Medvedev, qui a pu représenter un mirage de la libéralisation du régime. En réalité, il s'agissait plutôt d'une modernisation conservatrice, c'est-à-dire de moderniser l'économie, à ce moment-là, de passer d'un modèle d'une économie de la rente à un objectif d'économie de la connaissance, jugé moins humiliant, et à même d'assurer la domination politique du régime. Cette réforme, elle a été présentée à ce moment-là comme une réforme de rationalisation, de modernisation, dépolitisée. Mais en fait, c'est une réforme autoritaire qui a été menée en fait par un clan, celui qui était à la tête de l'Académie de l'économie nationale, notamment menée par Vladimir Mao, dont on reparlera peut-être, et qui s'est mis au service en fait du pouvoir pour créer cette académie qui ensuite avait vocation à armer les volontés politiques du chef de l'État, lui permettent en fait de faire passer ses réformes, d'en assurer l'exécution et de créer une bureaucratie aux ordres, loyale. Un exemple qu'on peut donner de cette mise au service du pouvoir d'État, par exemple, c'est que cette académie, elle a été mobilisée au lendemain de l'annexion de la Crimée pour former 14 000 fonctionnaires issus de ce territoire et pour les faire passer, en quelque sorte,
dans l'administration russe.
Dans l'administration russe, oui. Et au service de l'État russe.
Cette académie de l'administration publique, elle accueille chaque année jusqu'à 200 000 auditeurs. Donc ce sont soit des étudiants, soit des cadres des secteurs privés et publics qui viennent se former à l'administration et la haute administration avec un enseignement aux valeurs plutôt libérales, comme vous parliez tout à l'heure, ces théories du new management, comme l'expliquait ici en 2013 au Forum économique international de Saint-Pétersbourg son ancien président Vladimir Maou.
L'enseignement professionnel doit avant tout répondre aux défis, au dynamisme et à l'adaptabilité de la société moderne. L'éducation des 19e et 20e siècles est une éducation dans laquelle une personne se spécialisait et travaillait ensuite toute sa vie dans ce domaine. L'éducation du 21e siècle est une éducation où une personne doit étudier différentes choses à la fois. Une personne qui a obtenu une spécialité ne peut pas y travailler avec succès toute sa vie. En ce sens, je suis toujours surpris lorsqu'on me demande combien de nos diplômés ont une spécialité. Si vous êtes une université performante et que vos diplômés ne travaillent pas dans votre spécialité, vous devriez leur donner la possibilité de s'adapter à ces défis, défis professionnels, défis intellectuels qui existent dans la société. Nous devons dire à nos étudiants que, quoi qu'il arrive dans le monde, ils seront demandés dans 5 à 10 ans. Mais pour cela, nous ne devons pas seulement enseigner correctement et utiliser la technologie correctement, nous devons utiliser les institutions correctement.
Alors c'est intéressant d'entendre ce discours de Vladimir Maou il y a plus de 10 ans maintenant, Victor Violier, puisque cette académie c'était aussi une forme de business school, comme on dit, il y avait une formation au management qui se voulait à la pointe, un incubateur de start-up même dans cette école, avec des professeurs venus de toute l'Europe, vous me dites si je me trompe, et aussi de Stanford, et ça l'école s'en faisait une gloire, un honneur. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Qu'est devenue cette école sans Vladimir Maou, parce qu'il a disparu il y a maintenant quelques mois?
Oui, vous avez tout à fait raison de le mentionner, parce que c'était effectivement l'académie présidentielle, c'était vraiment insérée sur le marché international de l'enseignement supérieur et de la recherche, et elle avait noué des partenariats avec un certain nombre d'écoles, d'académies à travers le monde. Elle était très ouverte de ce point de vue-là. Ce qui s'est passé, donc, c'est que Vladimir Maou a été arrêté à l'été 2022, dans le cadre d'une affaire de corruption qui le reliait notamment à Marina Rakova, l'ancienne vice-ministre de l'éducation, donc une affaire de corruption par détournement de fonds et emploi fictif. Mais en réalité, ce qui lui a valu d'être arrêté, puisque comme le disait justement Anna-Colin Lebedev, en fait, on a un dossier à peu près sur tout le monde. La question, c'est quand et pourquoi on vient les chercher. S'il a été arrêté, c'est parce que on s'est aperçu qu'il n'avait pas signé la déclaration des recteurs en soutien à la guerre du 5 mars 2022.
Des recteurs d'université.
Tout à fait. Donc, cette arrestation a marqué un coup d'arrêt à cette entreprise. Là, on se demande un peu ce que va devenir l'académie. Pourquoi ? Parce qu'elle était considérée comme un marqueur de l'influence de ceux qu'on appelait libéraux systémiques, c'est-à-dire qui ne remettaient pas en cause le système politique, mais qui étaient plutôt ouverts sur l'international, etc. Son arrestation marque à l'inverse donc le marqueur de la radicalisation du régime dans la guerre, et qu'on a vu aussi du point de vue de l'académie qui a été reprise en main. D'abord, elle va servir par exemple pour le programme du temps des héros, et puis le printemps 2022, le procureur de Moscou par exemple a visé certains programmes spécifiques, notamment de sciences humaines et sociales, de l'académie, considérant qu'ils portaient atteinte aux valeurs traditionnelles de la Russie. Mm-hmm. Donc là, on voit aussi une reprise en main jusque dans les contenus d'enseignement pour faire primer le patriotisme sur l'ouverture que connaissait auparavant cette académie.
Donc avec un basculement que vous décrivez, Victor Violier, dans vos travaux, un rapport de force qui passe de ces nouveaux cadres étiquetés comme libéraux à ce qu'on appelle les siloviki, ou hommes de force et fonctionnaires issus des ministères répressifs, donc au détriment des managers tombés en disgrâce. Comment, Anna-Colin Lebedev, comment la guerre en Ukraine a-t-elle changé l'administration russe?
Alors je pense que les effets structurels se font encore attendre. Hein. C'est-à-dire qu'on a surtout une très grande stabilité aujourd'hui aux places du pouvoir en Russie et aux postes administratifs. Hein. Souvent, ceux qui étudient ces questions-là les décrivent avec la métaphore du jeu de chaises musicales. C'est-à-dire qu'on prend les mêmes et puis on rebat un petit peu les cartes pour les mettre sur d'autres postes. Et il n'y a pas véritablement d'entrée de nouvelles personnes, y compris de personnes qui seraient issues par exemple du monde militaire. On ne voit pas de militaires militarisation aujourd'hui des cercles de décision. Alors on va voir ce que le programme Le Temps des Héros va impulser à cela. De même, en fait, le pouvoir cherche à maintenir quand même aujourd'hui une impression de normalité, et l'impression de normalité passe par la continuité de ses services publics. Hein, tout est censé bien fonctionner et tout doit bien fonctionner. Et par exemple, ce qui doit bien fonctionner et qui plaît énormément aux Russes et qui est aussi symptomatique de cette veine libérale dans la gestion des services publics, c'est tous les services en ligne. Et le passage sur Internet des services publics, sur le portail par exemple des services publics, où on peut inscrire son enfant à l'école, prendre rendez-vous chez le médecin, enregistrer sans voiture, sans se déplacer de chez soi, qui servent de vitrine et qui sont ce que le pouvoir veut montrer aujourd'hui de son fonctionnement.
Petrouchka, le ballet d'Igor Stravinsky, après l'Oiseau de Feu et avant le Sacre du Printemps, ici joué en 1969 sous la direction de Pierre Boulez. Ça nous fait plaisir de changer un petit peu des nouveautés du monde entier que nous sommes par ailleurs toujours très heureux de vous faire entendre dans Culture Monde. Les agents publics et hauts cadres de l'administration russe et la fabrique de la loyauté. C'est le troisième épisode de notre série sur les fonctionnaires. Anna Colin-Lebedev et Victor Violier nous ont parlé à la fois de la formation, du recrutement, du système de récompenses et de sanctions dans l'administration russe. Mais comme cette administration est loin d'être homogène, les recteurs d'université y tiennent une place un peu particulière.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Dans cette galaxie des fonctionnaires russes, les recteurs d'université naviguent entre loyauté, ne serait-ce que pour garantir le bon fonctionnement et financement de leur établissement, et aussi une forme d'indocilité, parfois, en tout cas d'indépendance, qu'ils parviennent à conserver. Bonjour Carole Siegmann.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chargée de recherche en sciences politiques au CNRS, rattachée au Centre d'études russes, caucasiennes, est-européennes et centra-asiatiques, le CERSEC. Alors peut-être avant de parler des recteurs d'université, on a peu parlé des professeurs jusque-là. Les professeurs d'université qui, pendant la période soviétique, jouissaient d'un certain prestige. Comment la crise économique, après la chute de l'URSS, les a affectés jusqu'aujourd'hui? Est-ce que ce sont des personnes qui sont considérées, qui sont bien payées?
Alors, il y a eu effectivement une baisse de prestige de la profession à partir des années 90. En fait, c'est dû au fait que les universités, dans les années 90, ont eu des problèmes de financement. L'État, lors de la crise économique qui a frappé la Russie après la disparition de l'URSS, les recettes de l'État se sont complètement effondrées.
Et voilà. Donc ils ont moins payé les universités.
Voilà. Et donc les universités ont dû se débrouiller toutes seules pour se financer, pour trouver des moyens de survie. Elles sont devenues très autonomes, d'un côté. De l'autre, les universitaires ont vu leur traitement de base s'effondrer également. Donc en fait, c'est les différentes activités commerciales que les universités ont développées ont permis aux enseignants de rétablir leur rémunération.
Voilà, parce qu'en 2000, en l'an 2000, leur traitement représentait 25% du revenu moyen par habitant en Russie, donc un déclassement collectif que vous décrivez dans vos travaux, Carole Siegmann, avec donc à ce moment-là un nouveau rôle pris par les recteurs d'université, c'est l'équivalent de nos présidents d'université. Qui sont les recteurs à la tête des établissements d'enseignement supérieur en Russie et quel rôle prennent-ils quand l'État ne parvient plus à maintenir le financement de l'enseignement supérieur?
Alors les recteurs sont des universitaires qui ont fait une carrière à la fois universitaire et en même temps dans l'administration des universités, à l'époque soviétique aussi dans les le comité du parti. Donc ils deviennent importants en fait, particulièrement importants dans les années 90 justement, lorsque les universités doivent se débrouiller toutes seules. C'est l'une des raisons pour lesquelles cette figure du recteur est importante, parce qu'elle devient à la fois une cible de la verticale du pouvoir et en même temps un instrument de cette verticale. C'est-à-dire que les responsables au sommet de l'État considèrent que en tenant les recteurs, ils vont pouvoir tenir l'ensemble du secteur. Et ces recteurs sont tenus en bride de différentes manières. Alors, d'abord, depuis 2006 et progressivement, depuis, les recteurs des universités les plus prestigieuses sont nommés directement par l'exécutif.
Alors qu'ils ont été élus à un moment, pendant une période.
Ils étaient élus, et comme le sont toujours les autres recteurs, même s'il y en a un certain nombre qui sont nommés par intérim, c'est le même système que les gouverneurs. Ensuite, plusieurs recteurs ont été condamnés pour malversation financière. On retrouve les mêmes les mêmes pratiques. Et aussi, on les mouille politiquement. Ils ont été instamment priés de signer, début mars 2022, la déclaration dont parlait Victor Violier,
de soutien à la guerre en Ukraine,
à l'invasion à l'Ukraine, et une bonne moitié d'entre eux a signé cette déclaration.
Mais ils ont, alors comment négocient-ils dans les marges? Par exemple, on leur a très longtemps demandé de supprimer des postes, de licencier des professeurs. Est-ce qu'ils se sont toujours exécutés ou est-ce qu'ils trouvent des parades?
Alors, c'est là où ils sont effectivement considérés par les autorités centrales comme des instruments de la reprise en main du secteur par le centre. Et en fait, ils ont par exemple, on leur a demandé de licencier une partie de leurs enseignants dans les années 2010. Ils l'ont fait, mais dans une proportion bien moins importante que ce qui leur a été demandé. Donc en fait, on s'aperçoit en fait qu'ils ne sont pas totalement dociles. Même dans les années 2000, dans les années 2000 et 2010, ils se sont mobilisés un certain nombre de fois contre des réformes, et ils ont parfois réussi à obtenu
gain de cause.
Bon, évidemment, depuis 2012, leur mobilisation se font beaucoup plus discrètes, parce que, à mesure que le régime devient plus répressif, mais elles n'ont pas disparu.
Alors, vous expliquez par exemple, vous donnez plein d'exemples très précis sur les recteurs, quand ils sont invités à supprimer des postes, ils trouvent des parades en faisant de certains noms de professeurs des âmes mortes, entre guillemets, mais pas au sens où l'entendait Gogol. Donc, ces professeurs n'apparaissent plus dans les chiffres. On trouve des solutions pour qu'ils soient toujours là, mais qu'ils n'apparaissent plus dans les effectifs de l'université. Ils ont aussi trouvé des parades quand a été mise en place en 2009 l'équivalent du baccalauréat. Ça a affecté l'autonomie des universités, apparemment, puisque elles n'arrivaient plus à choisir leurs étudiants comme elles le faisaient avant. Et là, quelles parades ont-elles trouvé?
Elles ont réinventé, en fait, en quelque sorte, les concours d'entrée qui existaient avant 2009. Elles ont créé des Olympiades à plusieurs universités qui leur ont permis de sélectionner les meilleurs étudiants. Alors évidemment, ce ne sont que quelques universités qui gagnent dans cette bataille des Olympiades, parce que c'est une compétition entre universités. Mais donc voilà, elle trouve effectivement, enfin les recteurs, surtout les recteurs des universités les plus prestigieuses, se battent pour conserver leur autonomie. Et là, c'était un enjeu important.
Alors pour faire juste réagir Anna Colin-Lebedev sur les professeurs. Alors là, on parle des professeurs d'université qui n'ont pas le statut de fonctionnaire. Ils sont salariés de leur établissement.
Ils sont salariés. C'est ça, car... Et ce qui est important de noter, c'est qu'ils ont des contrats à durée déterminée de 1, 3 ou 5 ans. 5 ans maximum, et à chaque échéance, ils doivent passer un concours pour être maintenus à leur poste.
D'accord, donc ça ne favorise pas l'indocilité. Là, en l'occurrence, quand on veut garder sa place, on ferme ça, on se tait. Anna Colin-Lebedev, sur les professeurs, le corps enseignant comme clé de voûte du système de Vladimir Poutine.
Alors, les enseignants ont bien évidemment un rôle à jouer, aussi bien à l'université que dans le secondaire, sur la dimension idéologique, la transmission du message du pouvoir, la formation des élèves. Mais pour ce qui est, par exemple, des enseignants du secondaire, je n'ai pas l'impression que ça se pratique dans le supérieur. Ils ont d'autres fonctions plus pratiques, comme par exemple leur participation à la manipulation électorale. Les élections en Russie se déroulent, les bureaux de vote sont très souvent dans les écoles ou dans les administrations, mais vraiment très souvent dans les écoles. Et ce sont les enseignants et l'administration des écoles qui tiennent en fait les bureaux de vote. Et qui le tiennent officiellement volontairement, mais en réalité pas volontairement du tout. Et surtout, en fait, on fait pression sur eux pour s'assurer à ce que les résultats que le pouvoir veut obtenir aux élections soient bien obtenus. Donc, quand on a par exemple des images de capture d'écran, de caméras dans les bureaux de vote, on voit souvent des dames d'une cinquantaine, d'une soixantaine d'années en train de faire du bourrage d'urne. Eh bien, ce sont les enseignants qui, bien évidemment, ne sont pas heureux d'avoir à réaliser cette fonction, mais la pression hiérarchique sur eux est extrêmement forte.
Est-ce qu'on peut parler d'infrarésistance ? Est-ce que vous, qui Anna Colin-Lebedev, avez étudié ça, ces infrarésistances dans la société russe, alors en l'occurrence contre l'invasion de l'Ukraine, mais elles peuvent être de plusieurs ordres. Est-ce que dans les écoles, quand les professeurs sont appelés à surveiller des bureaux de vote, ou Carole Siegmann, dans les universités, est-ce qu'on... Et puis Victor Violier, on finira avec vous, mais sur ces infrarésistances qui se créent quand même au quotidien.
On a effectivement des pratiques d'infrarésistance dans les écoles, notamment dans la mise en œuvre de ces cours d'éducation patriotique, les discussions sur les choses importantes qui ont été introduites par le pouvoir poutinien et notamment depuis le début de la guerre, qui doivent être, éduquer les élèves à être patriotes. On a constaté des pratiques de sabotage, véritablement, de ces cours par les enseignants, qui les remplaçaient par exemple par un cours de maths en disant les choses importantes pour nous aujourd'hui, c'est les maths, donc on va parler de ça. Bien évidemment, leur marge de manœuvre est moindre que dans le supérieur.
Et Carole Siegmann, alors cette marge de manœuvre dans le supérieur, dans les cours d'idéologie par exemple, qui sont obligatoires à l'université depuis les années 2000. Est-ce qu'on observe ce même genre de discours ?
Alors, c'est difficile de savoir exactement, parce que, évidemment, les personnes ne parlent pas trop. Mais effectivement, on entend ce type de détournement des cours d'idéologie. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les recteurs eux-mêmes, ne sont pas complètement obéissants. En fait, je pense qu'on peut expliquer ça de différentes façons. Premièrement, parce que ils sont soumis en fait à des loyautés multiples, en dehors du fait qu'ils doivent montrer leur allégeance au pouvoir central. Leur légitimité en tant que recteur à l'intérieur des universités tient aussi à leur capacité à protéger leur établissement des ingérences extérieures. Alors, c'est une protection qui n'est pas totale, mais tout de même, comme je le disais, ils n'ont pas licencié autant d'enseignants qu'on leur demandait. Il y a aussi un autre phénomène qui peut expliquer cette relative indocilité des recteurs, c'est le fait qu'ils sont parfois entraînés dans des dynamiques de compétition qui sont propres à l'espace universitaire et qu'ils ne maîtrisent pas nécessairement, et qui peuvent transformer des réformes.
Donc tout ça, on a bien compris, n'est pas un tout homogène. Comme les fonctionnaires ne sont pas un tout homogène, le centre non plus, comme vous l'appelez, Carole Siegmann, les autorités fédérales qui sont traversées, elles aussi, de conflits, de compétitions, même si elles reprennent la main, en l'occurrence, des universités dans les années 2000. Merci à vous trois d'avoir été avec nous. Pardon, Victor Violier, on arrive à la fin de cette discussion. Donc Carole Siegmann, chargée de recherche en sciences politiques au CNRS, rattachée au CERSEC. Victor Violier, chercheur en politique comparée et en sociologie militaire et des institutions à l'IRSEM et puis à l'Institut des sciences sociales du politique. Et merci beaucoup Anna Colin-Lébédef, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre. Rappelez-nous le titre de votre dernier livre sur Russie-Ukraine.
Jamais frère, point d'interrogation, Ukraine et Russie, une tragédie post-soviétique.
Merci beaucoup, c'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
En Colombie ce matin, Catherine, à la frontière près du Venezuela, où les violences entre guérillas provoquent une crise humanitaire.
L'une des pires depuis des décennies, souligne El País América. Plus d'une centaine de morts dans la région de Catatumbo, région montagneuse du nord-est de la Colombie. Plus de 25 000 déplacés. Ce chiffre a doublé en une journée, explique le journal El Colombiano. Et ce, à cause des groupes armés de gauche qui s'affrontent. La guérilla de l'ELN a lancé les hostilités jeudi dernier contre des membres dissidents des FARC. Ils se disputent le contrôle du territoire et les routes du narcotrafic en Colombie. Premier producteur mondial de cocaïne, note El Tiempo et El País América. Cette crise humanitaire se lit notamment sur les visages des familles qui fuient les violences et le risque de voir leurs enfants enrôlés dans les guérillas. Ils fuient la ville de Tibú, toute proche de la frontière vénézuélienne, raconte le journal colombien El Espectador. Ces familles arrivent en camion à Cúcuta, la capitale du département du Norte de Santander. Ces familles cherchent de la nourriture, des couches, de l'eau, mais ces Colombiens n'obtiendront tout cela qu'après un recensement et une queue interminable sous le soleil, raconte encore El Espectador. La ville de Cúcuta ne peut faire face à l'afflux de ces paysans déplacés, alerte le quotidien El Colombiano. Les morgues de la région n'arrivent pas non plus à faire face au nombre de victimes. C'est pire que pendant la pandémie de Covid. 46 000 enfants ne peuvent pas non plus retourner en classe à cause des violences des groupes armés de gauche, explique encore El Colombiano. Des milliers d'habitants se terrent chez eux, ajoute El País America, et le président colombien Gustavo Petro a déclaré l'état d'urgence hier en voie de l'armée pour tenter de reprendre le contrôle face aux guérillas.
Se enfrentan a sangre y fuego por el control del Catatumbo, una región estratégica para la producción de cocaína.
Les guérillas font parler les balles et couler le sang pour contrôler donc la région stratégique de Catatumbo, essentielle à la production de cocaïne, explique l'AFP en espagnol et El Colombiano. La population civile se retrouve donc prise entre deux feux, victime d'assassinats, expliquent encore les autorités. Avec plus de 50 000 hectares de plantations de coca, Catatumbo, dans le nord-est de la Colombie, est aujourd'hui le symbole de la guerre interne dans ce pays. Et l'ébauche d'une trêve semble bien lointaine. Les forces de l'ELN patrouillent dans les rues de la ville d'El Tara et vérifient les téléphones portables. Les habitants affirment que si les guérilleros trouvent quelque chose de compromettant, ils se mettront alors à tuer, explique le journal El Colombiano. De quoi réveiller les traumatismes de la guerre civile en Colombie qui a fait 450 000 morts en un demi-siècle.
Et pour finir, Catherine, Donald Trump continue d'inspirer les dessinateurs de presse.
Alors je vous propose donc faire notre fil rouge. Nous avons commencé lundi matin, alors peut-être pas un fil rouge pour les quatre prochaines années de présidence aux États-Unis, mais donc pour la semaine, avec ce dessin du Britannique Martin Rowson à voir dans les pages du Guardian sous le titre « Dernière nouvelle de l'impérialisme américain ». Dans un ciel bleu, un avion orange siglé de la lettre T comme Trump fait tomber une pluie de décrets présidentiels qui font l'effet d'une bombe, explosion au sol, fumée noire, visible donc dans ce dessin de presse du Guardian. Sur les décrets signés, on peut lire « Le Mexique sera rebaptisé South Trumpland, sud du pays de Trump » ou encore « Toutes les politiques écolo doivent être supprimées et considérées comme des conneries woke ou de losers faiblards ». Autre sujet qui intéresse les journalistes et les caricaturistes, l'empressement de Donald Trump pour gracier des condamnés, comme la quasi-totalité des émeutiers du 6 janvier 2021, rappelle The Hill, qui avait participé donc à l'attaque du Capitole, le cœur de la démocratie aux États-Unis, et agressé des forces de l'ordre. Des magas et des conspirationnistes chauffés à blanc par Donald Trump et ses accusations sans fondement de fraude électorale, ces grâces présidentielles, y compris pour des mouvements d'extrême droite comme les Proud Boys et les Oath Keepers, ne vont faire qu'alimenter la menace extrémiste terroriste aux États-Unis, craint le Washington Post qui a interrogé des experts en la matière. Les Proud Boys intimident aussi régulièrement à Miami des personnes qui défendent les droits LGBT+, qui luttent contre les interdictions de livres dans les écoles de Floride, rappelle le Miami Herald et le Guardian. Et puis Donald Trump qui a promis de lutter contre les trafics de drogue, contre le fentanyl, a par ailleurs gracié le fondateur du marché de la drogue Silk Road, condamné à la perpétuité pour avoir créé un site sur le dark web, un coin sombre d'internet, pour vendre de l'héroïne, de la cocaïne et d'autres substances illicites, ajoute le New York Times. C'était une promesse faite, note la NPR, aux libertariens qui estiment que cette condamnation est un exemple d'abus de pouvoir du gouvernement. Des grâces présidentielles à tour de bras qui se traduisent encore en dessin dans les pages du Chattanooga Times Free Press, un quotidien publié dans le Tennessee. Le dessinateur Clay Bennett nous fait voir le tueur de vendredi 13, reconnaissable à son masque de hockey, à sa machette ensanglantée. Il tient entre ses mains une grâce présidentielle signée Donald Trump. Un exemple donc, selon ce dessinateur de presse du Tennessee, de l'irresponsabilité du nouveau président des États-Unis.
Merci Catherine Dutu.